Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec Laurent Lepreux à la technique, et préparés par François Salmeron, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure à 10h50 recevra l'écrivain philosophe François-Georges Mogarlone pour élaborer une physiologie des fantômes. Suite et suite, ce jeudi, d'une semaine sur les écrivains et la drogue au-dessous du paradis. Après Malcolm Lowry et William Burroughs, avant Michaud dont on parlera demain, c'est de Baudelaire, des paradis artificiels évidemment, que nous allons parler tout de suite, en compagnie du meilleur ami des nouveaux chemins, Jacques Dariula, dont les cours disponibles sur jdariula.net sont une mine d'or à toile ouverte.
Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle, deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie. Ses gémissements et ses oscillations deviennent les vôtres, et bientôt, vous êtes l'arbre. De même, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines, mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Je vous suppose assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s'exhalent de votre pipe. L'idée d'une évaporation lente, successive, éternelle, s'emparera de votre esprit et vous appliquerez bientôt cette idée à vos propres pensées, à votre matière pensante. Par une équivoque singulière, par une espèce de transposition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant et vous attribuerez à votre pipe, dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac, l'étrange faculté de vous fumer.
Bonjour Jacques Dariula.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins. Voilà près de 2 mois, en comptant les vacances d'été, que nous n'avons pas fait d'émission ensemble et nous n'avons commis sur Baudelaire, si j'ai bonne mémoire, que 5 émissions à l'époque où les chemins ne duraient qu'une demi-heure. C'est dire à quel point il était urgent non seulement de travailler ensemble, mais aussi et surtout de reparler de Baudelaire. Et c'est en l'occurrence principalement des paradis artificiels que nous allons parler, ou partir, et aujourd'hui est du passage que l'on vient d'entendre, un extrait du poème du haschich, un poème du haschich, non pas le traité du haschich, on va en parler, et d'un paradoxe, un paradoxe peut-être familier d'ailleurs à l'amateur de drogue douce, le paradoxe d'une pipe qui fume celui qui la porte à ses lèvres, image d'ailleurs qui est à rapprocher de l'adresse au lecteur qui ouvre les fleurs du mal, Jacques Dariula.
Oui, bonjour Raphaël Entavan. C'est un texte magnifique et qui est à mon avis une des clés de la poétique de Baudelaire. C'est-à-dire, ce que le texte nous décrit, c'est ce transport imaginaire du sujet dans l'objet et cet avènement du monde. Le poète ou le hachichine devient albatros, il devient arbre, il devient sa pipe, et ce faisant, il découvre une présence du monde que l'état normal, la vie ordinaire, nous masque, recouvre, dissimule. Et cette présence du monde qui donne à chaque objet une réalité véritablement flamboyante, La présence irréfutable de l'hallucination, c'est aussi, je crois, la découverte d'une poétique nouvelle, c'est-à-dire d'une possibilité de dire poétiquement le monde, ce qui était devenu sans doute, certainement, une difficulté dans ce monde prosaïque, sous le Second Empire, comme aurait voulu titrer un roman Flaubert, écrasé sous le Second Empire, où est la poésie le poème abîmé dans le spleen par une sorte de voyage au bout du spleen, finalement. C'est au bout de l'ennui, je crois. C'est pas du tout
De là, la référence à l'adresse au lecteur qui inaugure les fleurs du mal, rappelons-le. Hein. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Oui. Je pense que l'ennui est le portail. Par lequel on peut pénétrer dans le royaume des fleurs du mal, c'est-à-dire d'une poétique de la modernité, d'une poétique absolument nouvelle. Parce que, bon, alors, on pourrait dire, c'est pas très, très original de dire que l'art est une réponse à l'ennui. Au XVIIIe siècle, on disait déjà que l'art divertit, ou je ne sais pas, c'est ce que disait Dubos au début du XVIIIe siècle, que pour vaincre l'ennui, cette dépression qui est si essentiel à notre condition, eh bien, il suffit de se livrer à ces feintes passions que nous offre l'œuvre d'art. Mais Baudelaire ne cherche pas du tout à se délivrer de l'ennui. Il cherche plutôt à aller jusqu'au bout de l'ennui. Il a le sentiment, et c'est d'ailleurs c'est une chose que chacun peut ressentir, quand nous nous ennuyons, nous entendons distinctement un volet qui claque, les bruits qui sont autour de nous, et les objets qui sont proches de nous prennent un relief, une intensité, une présence particulière. Et par conséquent, le spleen semble nous indiquer une voie où peu à peu nous perdons conscience de nous-mêmes, tandis que corrélativement, par une sorte de balance, la présence du monde devient de plus en plus irréfutable.
Un voyage au bout de l'ennui. En votre compagnie, Jacques Dariula, à la difficulté du poète prisonnier d'une époque lugubre, sinistre ou blafarde, celle du Second Empire, celle des fracs du Second Empire, s'ajoute une autre difficulté, alors cette fois-ci une difficulté essentielle, peut-être et non pas historique, qui est que, et c'est une difficulté sur laquelle nous travaillons depuis le début de cette semaine sur les écrivains et la drogue, ce moyen que constitue la drogue, qui est que la condition de possibilité de l'hallucination du monde, de cette façon, de cette présence du monde dont vous parlez, les conditions de possibilité de cette présence, de cette mise en présence du monde, sont également, semblent compromettre parfois les conditions de sa restitution, c'est-à-dire que, en gros, quand on se drogue, on voit peut-être plus de choses, mais quand on abuse, en somme, il faut abuser avec modération, puisque quand on abuse, alors, et c'était le problème que posait notamment Laurie dans Au-dessous du volcan, quand on abuse, la plume elle-même ne tient plus droite. Or, dans le poème du Haschisch, c'est un poème extraordinairement tenu.
C'est en effet une question que Baudelaire se pose lui-même, d'ailleurs qu'ils vont tous se poser. Est-ce que la drogue peut-elle être créatrice, ou comment peut-on surmonter la stérilité de la révélation? Et Baudelaire dit lui-même que dans la drogue, l'imagination est multipliée. Je crois que le sous-titre du poème du Haschisch est « Comment multiplier l'individualité ». Mais inversement, la volonté est totalement déprimée. Et par conséquent, on est là comme une éponge qui est traversée par la violence des sensations. L'image de l'éponge se trouve chez Théophile Gautier, et incapable de créer. Et on a le sentiment d'œuvres merveilleuses, mais au réveil, au lendemain de fête, l'œuvre, on est incapable de la créer.
Admettons, oui. Dit-il, admettons un instant que le haschisch donne, ou du moins augmente le génie, ils oublient qu'il est de la nature du haschisch de diminuer la volonté. Et qu'ainsi, il accorde d'un côté ce qu'il retire de l'autre, c'est-à-dire l'imagination, sans la faculté d'en profiter. Or, qu'est-ce qu'un écrivain qui ne peut pas restituer ce qu'il est capable de voir ?
Absolument. D'autant plus que l'imagination, chez Baudelaire, n'est pas du tout une faculté passive de simple onirisme, un spectacle onirique dans lequel on se laisserait aller, mais c'est une faculté de saisie. Enfin, c'est parfaitement dit dans ce texte extraordinaire qui s'intitule « Le peintre de la vie moderne », où l'artiste, qui est un dessinateur, Constantin Guy, désigné par ses initiales, et qui est une sorte d'artiste modèle à partir duquel Baudelaire va tenter de construire la poétique de la modernité, eh bien, est avant tout saisie, coup d'œil, rapidité du trait, hein, de l'esquisse, du croquis, ce qui implique une attention à l'affût, Pour ne pas rater le visage de la passante dans la houle de la foule, il faut une lucidité extrême et une volonté à l'affût. Donc la création implique cette participation nerveuse, rapide, fulgurante, comme un éclair. Le visage de la passante qui passe dans la foule, dans la scène célèbre des Fleurs du Mal, c'est un éclair puis la nuit. Donc il faut être réveillé, il ne faut pas dormir quand cet éclair survient. Et la drogue, au contraire, déprimant la volonté, nous rend incapables de cette rapidité de réaction qui fait que nous ne manquerons pas le Dieu s'il se montre.
Le paradoxe d'un éclair qui est donc une illumination qui nous soustrait, ou plus exactement inaugure ou laisse entrevoir une autre temporalité que la temporalité blafarde, Second Empire ou tout simplement quotidienne d'une existence qui s'enfuit et qui à cet égard donc ouvre au spleen, à l'ennui et à la certitude de mourir. Cet éclair qui est en même temps une illumination est constamment exposé au risque justement d'un temps sinistre qui reprenant ses droits, nous en éloigne à jamais.
Oui, c'est dans ce sens qu'il dit d'ailleurs que l'art...
Vous parliez du lendemain à cet égard d'ailleurs.
Oui. Hein. Et je pensais, dans le pain de la vie moderne, il parle de l'art comme d'une mémoire résurrectionniste, c'est-à-dire qu'il s'agit de sauver cet éclat d'or dans le temps de son ensevelissement dans le temps qui passe et qui reprend ses droits au lendemain de fête. Mais je voulais ajouter que, parce que là nous disons du mal du haschich, alors comment, si le haschich est une dépression de la volonté et s'il s'oppose en tout à la poésie, ce divin opium, comme dit Baudelaire dans le célèbre Sonnet des Phares, La poésie et l'alcool et
il faut distinguer le haschich et l'opium. Hein. Voilà, il faut distinguer aussi le haschich et l'opium hein, dans les paradis artificiels. Il ne leur réserve pas le même sort exactement.
Oui. Alors je parle surtout de l'hallucination visuelle du haschich.
Restons-y.
Bien sûr que la volonté est déprimée et par conséquent on est hors d'état de créer. Mais cependant, il me semble, parce que c'est un peu par hasard que Baudelaire a été conduit à ses séances de l'hôtel de Lausanne sous la conduite d'un médecin, Moreau de Tours, qui s'intéressait aux effets du haschich d'un point de vue purement médical et expérimental. D'ailleurs, selon les témoignages de Gautier, Baudelaire restait toujours assez extérieur à ses séances et était intéressé sans vouloir, sans être... il ne souhaitait pas plonger, pour ainsi dire. Il y a une page magnifique aussi dans le poème du haschich où il dit que l'eau se met à miroiter de façon fascinante et qu'il faut se méfier, à son avis, quand on fume du haschich parce que le désir de se noyer serait presque irrésistible et que l'on entend le chant de l'ondine qui nous attire. Donc il reste plutôt sur la rive et ce qui l'intéresse, c'est cette révélation d'un monde que la banalité quotidienne nous masque, mais qui pourtant commence de faire signe au fond du spleen, un monde que la banalité quotidienne nous masque et qui est, il l'appelle lui-même d'ailleurs la surnature, il parle de surnaturalisme, c'est ce qui apparaît dans l'érotisme un peu flamboyant de Lacroix, dans La mort de Sardanapale par exemple, qui est un tableau que Baudelaire adore. Donc ce monde poétique nous crève les yeux, il est là sous nos yeux, mais le haschich a, je pense, à jouer un rôle fondamental dans le parcours poétique de Baudelaire, dans la mesure où il lui a révélé cette vision assez inattendue, hein, au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au bout de l'ennui, hein, il n'y a pas le néant, il y a la révélation renversante d'une présence étincelante, aiguisée, acérée dans une lumière flamboyante du monde. Présence du monde que l'habitude que nous avons d'utiliser les objets les rapportant toujours à nous. Justement, c'est moi qui fume la pipe, si je vois l'arbre, si je situe toujours l'objet en fonction du sujet qu'il vise, je manque le système des correspondances, la symphonie des choses.
Dont la condition de possibilité est la dilution du sujet dans la drogue qu'il absorbe, en l'occurrence.
Oui. Mais alors évidemment, si le sujet se noie, s'il répond à l'invitation de l'ondine, il n'écrira pas de sonnet. D'autant plus que c'est une poétique extrêmement maîtrisée, extrêmement sûre, extrêmement travaillée, à l'image même de la poétique d'Edgar Poe.
Et puis, Jacques Dariula, encore une fois, il y a le lendemain. Le terrible lendemain, tous les organes relâchés, fatigués, les nerfs détendus, les titillantes envies de pleurer, l'impossibilité de s'appliquer à un travail suivi, vous enseigne cruellement que vous avez joué un jeu défendu. La hideuse nature, dépouillée de son illumination de la veille, ressemble au mélancolique débris d'une fête. La volonté surtout est attaquée, de toutes les facultés la plus précieuse. On dit, et c'est presque vrai, que cette substance ne cause aucun mal physique, aucun mal grave du moins. Mais peut-on affirmer qu'un homme, incapable d'action et propre seulement aux rêves, se porterait vraiment bien quand même tous ses membres seraient en bon état ? Jacques Dariula est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, ou des nouveaux chemins, dans une semaine, sur les écrivains et la drogue. C'est de Baudelaire que nous parlons aujourd'hui. Faut-il, Jacques Dariula, à propos de Baudelaire, travailler sur une double temporalité? On va entendre tout à l'heure un texte magnifique, extrait des petits poèmes en prose, La chambre double. On se demande d'ailleurs ce qui est véritablement double dans cette chambre. Il y a peut-être deux temporalités à mettre en scène, un temps qui s'enfuit et un temps qui dure.
Alors l'opium élargit l'espace et le temps, comme il le dit. Le haschich a également ce pouvoir de dilater l'horizon temporel. Et il y a dans cette extase, parce qu'il y a un moment d'extase, mais il y a aussi un moment de souffrance, lorsque s'approche précisément le lendemain de la fête, il y a dans cette extase comme un suspens du temps. Mais ce suspens du temps est simplement donné, est simplement vécu de façon passive, n'est peut-être pas la leçon essentielle de la poétique du haschich. Il me semble... Bien sûr, il faudrait parler de l'éternité chez Baudelaire, mais la poésie est un accès à l'éternité. Mais c'est une... Disons que c'est un thème si grave qu'il vaudrait une émission à lui seul et que je voudrais essayer de parler plus précisément de ce que le haschich a enseigné au poète. Et je crois que ce qu'il lui a enseigné, en fait, c'est deux choses. D'abord, il lui a révélé cette hyperesthésie du monde, donc... Là, je parle du sens de la présence.
Hypersensibilité, finalement,
voilà,
à la présence.
Hypersensibilité, dans le sens du texte qui a parfaitement ouvert cette émission, avec l'arbre, la pipe, l'oiseau. Je pense que cette hyperesthésie est la voie qui conduit à la synesthésie, c'est-à-dire au jeu des correspondances. Au fond, il faut que...
Rappelons un instant quand même pour nos auditeurs exactement ce qu'on désigne par synesthésie, et chez Baudelaire, comme ailleurs d'ailleurs.
Par synesthésie, on désigne le fait que, par exemple, une sonorité peut avoir une couleur, qu'un parfum peut correspondre à des sons, il y a ainsi des alliances entre notre perception sensible du monde selon le prisme des cinq sens qui se mêlent, qui fusionnent et qui font que ce monde précisément est une seule valse mélancolique et langoureux vertige et non pas une collection d'informations sensibles qui tomberaient distinctement sur une sorte de logiciel qui se contenterait de les enregistrer. Donc la synesthésie, c'est cette correspondance entre nos impressions sensibles qui a ceci d'étrange chez Baudelaire, que cette synesthésie, enfin, le système des correspondances se fait dans la nature. Et la nature est d'autant plus là que l'homme est moins là, justement, que l'homme disparaît, que la souffrance subjective, que le sujet qui se met en avant s'efface peu à peu.
Celui qui s'interpose entre sa perception et le monde, au fond.
Celui qui s'interpose, le moi, oui. Ce moi incommode qui s'interpose entre... comment distinguer celui qui s'interpose et sa propre perception? On sait plus très bien où il est, le moi, ici. Mais enfin, en tout cas, le moi romantique. Je crois que c'est une poétique nouvelle.
Bon, donc Baudelaire est le contraire d'un moi romantique.
Absolument.
C'est essentiel de le dire.
C'est son dandisme.
Voilà.
Oui. Le moi romantique doit s'effacer pour que le sujet devienne le témoin de la révélation du monde. Et cette révélation du monde, c'est que le monde n'est pas simplement fait d'objets qui coexistent les uns par rapport aux autres, mais ces objets dialoguent entre eux. Baudelaire n'est pas le premier à penser que c'est là une des intuitions qui sont au cœur de toute poésie. Il se réclame souvent, et je pense que c'est une des sources les plus fondamentales, plus que les sources philosophiques qu'il donne et qui sont un peu...
c'est magique. Hein.
Oui,
Swedenborg.
Oui, je doute qu'il ait beaucoup lu Swedenborg, mais en revanche, il connaissait bien Hoffmann. Et les contes Hoffmann donnent dans cet état d'ivresse. Enfin, Hoffmann est un musicien professionnel et lit ce jeu des correspondances sensibles à une sorte de musique ou de symphonie du monde. Au fond, pour que la vraie poésie commence, il faut paradoxalement que le poète se taise. Et il faut que le poète se taise pour que le monde prenne la parole. Et alors, à ce moment-là, les choses se répondent les unes les autres, hein, comme dans un temple où des piliers laisseraient passer de confuses paroles. Le monde parle seul. Et le poète devient le scribe, pour ainsi dire, du chant du monde, de la symphonie des choses. Et je crois que... Alors là, il y a une poétique qui est absolument nouvelle, hein, qui rompt tout à fait avec le romantisme d'un Musset, par exemple, avec l'emphase de la subjectivité, une poésie objective, dont la voix, je crois, et c'est pourquoi il a intitulé ce texte le poème du haschich, dont la voix a été indiquée, mais seulement indiquée, ça n'est pas le haschich qui l'intéresse, mais lui a été indiquée par l'extraordinaire vision, l'extraordinaire acuité de la vision provoquée par le haschich.
Est-ce que poétiquement, d'ailleurs, cet effet de présence, on va entendre tout de suite la chambre double, ouais. L'extrait des petits poèmes en prose, et je vous pose une question à laquelle je vous demande de répondre après le poème, justement, est-ce que cet effet de présence du monde n'est pas restitué par le poète dans l'emploi parfois de phrases nominales, hein, tout simplement, de phrases où il s'épargne l'utilisation d'un verbe, il n'en a plus besoin, l'objet arrive tel qu'en lui-même, il n'a qu'à le nommer, écoutez.
Une chambre qui ressemble à une rêverie, une chambre véritablement spirituelle, où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse aromatisée par le regret et le désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre, un rêve de volupté pendant une éclipse. Les meubles ont des formes allongées, prostrées, alanguies. Les meubles ont l'air de rêver. On les dirait doués d'une vie somnambulique, comme le végétal et le minéral. Les étoffes parlent une langue muette, comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils couchants. Sur les murs, nulle abomination artistique. Relativement au rêve pur, à l'impression non analysée, l'art défini, l'art positif, est un blasphème. Ici, tout à la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie. Une senteur infinitésimale du choix le plus exquis, à laquelle se mêle une très légère humidité, nage dans cette atmosphère où l'esprit sommeillant est bercé par des sensations de serre chaude. La mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et devant le lit. Elle s'épanche en cascade neigeuse. Sur ce lit est couchée l'idole, la souveraine des rêves. Mais comment est-elle ici? Qui l'a amenée? Quel pouvoir magique l'a installée sur ce trône de rêverie et de volupté? Qu'importe, la voilà. Je la reconnais.
Oui, Jacques Tarjula.
Ce qui est remarquable dans ce texte, enfin parmi bien des choses, c'est un des plus beaux poèmes en prose du Spleen de Paris, c'est qu'il prend le style de l'inventaire, c'est-à-dire que l'hôte de cette chambre n'existe plus, pour ainsi dire, et la chambre elle-même prend la parole, les meubles ont des formes allongées, les meubles ont l'air de rêver, il semble doué d'une vie somnambulique, comme si la vie de l'habitant avait émigré dans les choses. Et par cette émigration, métamorphosait ou transmuait le monde de la nature en la surnature, c'est-à-dire faisait de la nature une symphonie poétique, le langage.
Il faut dire ici que ce que vous désignez par surnature n'est pas un au-delà de la nature, c'est une hyper-nature, c'est autre chose. Hein. C'est essentiel de le comprendre parce que ça va avec une définition baudelaïenne de l'imagination qui n'a pas pour effet de nous éloigner du monde, mais au contraire de nous y ramener.
Il emploie ce terme, vous avez absolument raison, mais il emploie ce terme de surnaturel ou de surnaturalisme même à propos de Delacroix en des textes où personnellement je ne peux pas m'empêcher de penser au surréalisme. Et on a l'impression que les fondements de cette esthétique avant la lettre sont en train de se poser. Mais le surréalisme est la révélation du vrai monde et non pas bien entendu d'un autre monde. Et alors, ce qui est magnifique aussi dans ce texte, c'est que de cette symphonie ou de ce jeu des correspondances, de la symphonie des choses, qui nous a été révélée au bout de l'ennui et par, je dirais simplement, le coup de pouce du haschich qui fait le saut dans l'autre monde, au fond du gouffre, et pour trouver de l'inconnu, eh bien, de cette silencieuse vie des choses naît l'idole, qui est la sylphide de Chateaubriand, comme il le dit par la suite. Ils sont tous hantés par l'idée de donner chair, de donner réalité à cette magnifique figure de la sylphide dans Combourg, début des Mémoires d'Outre-Tombe. Et l'idole du désir, donc, apparaît dans toute sa splendeur, une sorte d'idole orientale, elle-même minéralisée et animalisée comme un sphinx absolument énigmatique. Elle apparaît comme la suprême vérité de ce monde qui, tout entier, est une sorte de galerie de sphinx, forêt de symboles, comme des sphinx qui regardent passer l'homme qui est presque un intrus, finalement, dans ce monde. Et ce renversement du sujet et de l'objet crée une poétique absolument nouvelle, qui est celle des correspondances. Alors, peut-être pourrions-nous, pour reprendre maintenant, quand vous parliez de l'éternité, je crois qu'effectivement...
Sur la question de l'éternité, est-ce qu'on peut employer de façon synonyme éternité et ce qu'il appelle l'intensité d'intérêt dont le haschich parvient à revêtir le monde? Ou est-ce que ce n'est pas assez fort pour vous?
Je pense que ce n'est pas assez fort, ou du moins ce n'est pas une éternité poétique. Il y a un sentiment de suspens du temps qui est dû surtout à l'amplification du temps et de l'espace. Il insiste beaucoup, il n'est pas le seul. Moreau de Tours avait dit la même chose dans sa description clinique. Et Gautier, c'est un assez beau texte qu'a écrit Théophile Gautier sous le titre de Club des Hachichines, note la même chose. Mais je crois que l'éternité poétique ne peut être qu'une éternité recréée. Et donc elle doit être conquise dans, je ne veux pas dire théorie, dans la poétique des correspondances. Et la poétique des correspondances, je pense, est à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que les correspondances vont produire, vont révéler ce monde comme une caverne pleine d'échos, une sorte d'harpe éolienne qui va chanter par elle-même, et dont le poète n'est que le fidèle transcripteur, l'exact transcripteur. Et ces correspondances sont non seulement dans le fait de la dilatation de l'espace ou dans les relations entre les objets dans l'espace, mais aussi, et plus encore, chez Proust, c'est même ce qu'il a de... chez Baudelaire.
Et merveilleux lapsus.
C'est ce qui fait que il peut... que Proust se reconnaissait en lui et qu'on a souvent souligné la parenté de ces deux génies, de ces deux inspirations, eh bien, la correspondance se fait entre le temps présent et un moment du passé qui revient, mémoire résurrectionniste, qui est capable de dire à Lazare « lève-toi » comme il l'écrit dans le pain de la vie moderne. Et dans cet instant où l'intensité d'un présent fait écho et résonne avec un moment, évidemment, un moment crucial, un moment renversant du passé, où s'est montré à nu le visage de la vérité, qui est toujours celui d'un monstre ingénu et inquiétant chez Baudelaire, dans cet instant où le temps se court-circuite comme ça, par le génie poétique, dans la correspondance temporelle, alors oui, il y a, c'est cela, il y a quelque chose comme une saisie de l'éternité.
C'est ce qu'on appelle, au fond, l'éternelle communauté des sensations. Quand le narrateur, vous parliez de Proust, restons un instant sur ce lapsus qui en lui-même est fécond. Quand le narrateur retrouve un élément du passé à la faveur d'un bruit, quand il retrouve le bruit d'un carillon dans le tintement d'une cuillère, et ainsi de suite, toutes ces correspondances dont la recherche du temps perdu est tissée, au point de le faire aboutir à l'intuition d'un temps retrouvé, c'est-à-dire d'une éternité, des sensations. Non pas une éternité, une essence divine, comme chez Baudelaire, mais une éternité de sensations. Quand le narrateur saisit cela, il passe du temps perdu au temps retrouvé, et on a une opération semblable dans la métamorphose ou l'hallucination poétique telle que Baudelaire la décrit et telle qu'il en fournit la théorie dans le poème du Haschisch.
Je crois tout à fait. Les principes de poétique qui sont énoncés dans la bibliothèque des Guermantes quand il attend d'être introduit dans le temps retrouvé, doivent beaucoup à la théorie des correspondances baudelairiennes, enfin la théorie baudelairienne des correspondances plutôt. Et là aussi, d'ailleurs, il est en attente, il entend le tintement d'un couteau sur un verre, enfin il entend des bruits qui tout d'un coup prennent un relief, une intensité, une acuité, presque comme dans cette démultiplication de la sensibilité que produit le haschisch, et qui le met à l'écoute des signes du monde qui murmure, des choses qui se murmurent, qui s'échangent, je dirais pas un sens, qui échange des signes. Et dans ce signe, nous percevons un secret qui parle au sujet, qui l'implique, qui l'engage, qui le met au centre de cette symphonie muette.
C'est une drogue douce qui joue avec le feu, un terrain vague, forêt de ruines ou jungle pavée selon que la veille ou le sommeil fait pencher la balance. Une vieille ville dont les ombres gardent la trace des occupants évanouis et dont les édifices méticuleux, patiemment reconquis par la nature, demeurent soudain des châteaux de sable. Sous le kaléidoscope du fumeur, les oiseaux lacèrent le crépuscule, les cyprès plongent dans la piscine, les nuages prennent une forme, les formes perdent une intention, les nymphéas fleurissent en plein ciel, les schémas s'assouplissent, l'étendue se détend, la pensée danse, le passé pense, la lumière est éclairée par l'ombre, les contraires se juxtaposent, se fondent et s'enchaînent en préambule à la beauté. Le haschisch, c'est la préhistoire de la contemplation, l'éducation du regard par les yeux de l'âme.
Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour, j'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie? Dans mes frusques couleurs de muraille, je joue les épouvantails. Mais nom de Dieu dans mon âme, brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours.
Jacques Dariula est l'invité des Nouveaux Chemins aujourd'hui, ce jeudi, pour parler de haschich. C'est dans une semaine sur les écrivains et la drogue.
Aujourd'hui, je fais mon chemin solitaire. Toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de...
Cela ne vous fait-il pas souvenir de Jean-Jacques, qui, lui aussi, après s'être confessé à l'univers, non sans une certaine volupté, a osé pousser le même cri de triomphe, ou du moins la différence est bien petite, avec la même sincérité, la même conviction. Jean-Jacques s'était enivré sans haschich. C'est Baudelaire qui parle de Rousseau. Rousseau dont, bizarrement, dans une semaine sur les écrivains et la drogue, nous avons déjà un peu parlé. Jacques Dariula, que vaut ce parallèle entre Baudelaire et Rousseau, et que vaut justement cette mention que Baudelaire propose de Jean-Jacques Rousseau et cette façon qu'il a de s'enivrer sans haschich?
Oui, c'est effectivement étonnant. Il y a le sens immédiat de cette référence et puis un sens, je crois, plus latent. Le sens immédiat, c'est il décrit comment dans le haschichine est pris d'une sorte de délire des grandeurs, pense que le monde est un théâtre fait pour lui. Donc il met le moi au centre du monde, hein, puisqu'il y a cette ambiguïté que le moi à la fois disparaît en même temps et le centre de toute cette fantasmagorie. Il compare cela à l'orgueil extraordinaire, selon du moins Baudelaire, peut-être cela demanderait à être un peu plus approfondi, du début des Confessions où Rousseau dit qu'il a été un être unique, que le moule qu'il a fabriqué est maintenant brisé et que nul peut dire qu'il fut meilleur que cet homme-là. Alors, en ce sens, la référence à Rousseau est simplement une allusion au délire des grandeurs, à cette espèce d'amplification d'un moi qui se croit seul au monde.
On est dans l'ironie, puisque Baudelaire décrit exactement le mouvement inverse. Oui. Il décrit l'abolition du moi au profit du monde. Rousseau est celui qui, au contraire, enfle le moi, gonfle le moi à coup d'humilité, au point de prendre toute la place.
Dans les Confessions. Oui. Mais en même temps, Rousseau est par excellence l'un de ces poètes panthéistiques dont il a fait allusion à propos de l'ouverture au monde que produit l'extase du haschich. C'est-à-dire, cette fois, c'est le Rousseau, non pas des Confessions.
Mais des rêveries.
Mais des rêveries, et de la cinquième rêverie, où il y a effectivement une sorte d'extase au cours de laquelle le rêveur, porté sur les flots du lac de Bienne, disparaît littéralement dans le monde. Et la disparition du sujet est corrélative d'une apparition prodigieuse de la nature. La nature est un temple de vivant. C'est la nature qui apparaît quand... pas le monde. Le monde est toujours un ensemble symbolique, comme on dit le monde méditerranéen ou le monde grec, si vous voulez. Mais la nature, c'est... justement, il n'y a plus de système symbolique établi par l'homme. Il y aura bien ici une forêt de symboles, mais l'homme est plongé en elle sans en comprendre le sens, comme dans une allée de... On pense à une sorte de temple égyptien avec le sphinx qu'il regarde.
Chez Rousseau, cette expérience de dépossession qu'on trouve dans la deuxième rêverie, la deuxième promenade et la cinquième promenade. Oui. On a parlé de la deuxième à propos de Malcolm Lowry d'ailleurs, du chien qui le renverse, de cette expérience cosmique qu'il fait. Dans la cinquième promenade, cette expérience qu'il fait est concomitante au pur plaisir d'exister.
Oui, le pur sentiment d'exister.
Pur sentiment d'exister. Voilà.
Tout à fait. Dans la deuxième promenade, enfin, pas trop s'attarder sur Rousseau, mais dans la deuxième promenade, disons que c'est un accident, c'est un divin hasard qui le catapulte dans les étoiles et le saut du clown ou du Pierrot avec son bouquet de fleurs est réussi et lui fait découvrir cette autre vie qu'il ne soupçonnait pas sur la Terre, exactement comme, je pense, la vision du haschich fait découvrir à Baudelaire l'éventualité d'une poétique moderne, radicalement nouvelle, et qui rompt avec les complaisances du romantisme, du moi romantique, de son étalement, de ça. Dans la cinquième promenade, il y a une sorte d'exercice méthodique, presque d'exercice mystique, pour arriver à acclimater cet effet d'extase et le produire à volonté. Alors, bien entendu, le côté, l'extase panthéistique de Rousseau, elle se trouve aussi chez Baudelaire, puisque c'est peut-être le premier poète, de même qu'on pourrait penser que les poèmes en prose viennent tout autant du Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, auquel se réfère Baudelaire, que, je dirais, que l'invention du poème en prose, il me semble que ce sont les dits rêveries du promeneur solitaire.
Donc Baudelaire est-il ironique quand il parle de Rousseau, quand il dit de Rousseau qu'il s'est enivré sans hachiche ? En un sens, il l'est, puisque Rousseau est plein d'orgueil. En un sens, il ne l'est pas, puisqu'il lui reconnaît quand même une dette.
C'est ambigu. Il n'est pas très tendre pour Rousseau en général. Plus il prendra pour mettre à penser Joseph de Maistre, moins il appréciera Rousseau. Mais je pense quand même que ce nom ne vient pas par hasard. Et que, alors qu'il a parlé auparavant de ces poètes panthéistiques, Rousseau est d'un des initiateurs à la vie bienheureuse, en tant que la vie bienheureuse est la découverte de la plénitude de la nature, hein, de la symphonie des correspondances, dont le prix à payer est l'oubli de soi.
Voici une confiture verte, singulièrement odorante. Tellement odorante qu'elle soulève une certaine répulsion, comme le ferait du reste toute odeur fine portée à son maximum de force et, pour ainsi dire, de densité. Prenez-en gros comme une noix, remplissez-en une petite cuillère et vous possédez le bonheur. Le bonheur absolu, avec toutes ses ivresses, toutes ses folies de jeunesse et aussi ses béatitudes infinies. Le bonheur est là, sous la forme d'un petit morceau de confiture. Prenez-en sans crainte, on n'en meurt pas. Les organes physiques n'en reçoivent aucune atteinte grave. Peut-être votre volonté en sera-t-elle amoindrie, ceci est une autre affaire. Généralement, pour donner au haschich toute sa force et tout son développement, il faut le délayer dans du café noir, très chaud, et le prendre à jeun. Le dîner est rejeté vers 10h ou minuit. Une soupe très légère, seule, est permise. Une infraction à cette règle si simple produirait ou des vomissements, le dîner se querellant avec la drogue, ou l'inefficacité du haschich. Beaucoup d'ignorants ou d'imbéciles qui se conduisent ainsi accusent le haschich d'impuissance.
Jacques Dariula, en choisissant ce texte, Mathilde Unger me suggérait de le mettre en rapport avec Moesta et Rabunda et le vert paradis des amours enfantines. Effectivement, il y est question ici de confiture, hein, ce morceau pas plus gros qu'une noix qui rappelle un petit morceau de confiture. Est-ce que vous souscrivez ? Il me semble intuitivement que c'est extrêmement juste, mais je ne saurais pas dire en quoi. Est-ce que vous souscrivez à ce parallèle finalement entre la candeur de l'enfance et l'état hypnotique ou hallucinatoire que la confiture verte offre ou propose au poète ?
C'est une excellente idée, oui. C'est l'expression de confiture verte qui dépasse Baudelaire. Dans ce texte, d'ailleurs, il reprend les recommandations pour la préparation du haschich qui sont prescrites par Jacques-Joseph Moreau de Tours, donc le médecin initiateur des séances du club haschichine. Mais oui, c'est une confiture d'un verre très sombre, dit-il, alors que je vois plutôt un verre un peu cru, un peu aigu pour le paradis des amours enfantines. Mais il y a effectivement c'est indéniable, la poétique du haschich, puisqu'on peut la nommer ainsi, c'est trop dire, mais la poétique dont le haschich est l'initiateur, un peu comme Dante qui conduit Virgile aux portes du paradis, mais c'est ensuite une autre histoire que d'arpenter le paradis de la poésie. Donc celui qui fait passer le seuil, c'est cela, le guide, le haschich, cette poétique est un retour à l'enfance, au sens. D'ailleurs, bon, une des questions qui hantait les
on retrouve chez Baudelaire d'ailleurs la même ambivalence par rapport à l'enfance, quand il parle de Rousseau ou quand il parle des enfants. Oui. On ne sait jamais sur quel pied il danse. On ne sait pas si d'un pied, il leur met des coups de pied et de l'autre, il admire leur grâce.
Et puis aussi, le génie de la poésie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Donc c'est une enfance maîtrisée. Une enfance qui peut... Le poète est un enfant qui sait reproduire à volonté cette faculté qu'ont les enfants pour Baudelaire, qui sont à la fois parfaitement ingénu et parfaitement pervers, ça n'est pas du tout contradictoire, hein, c'est pourquoi le mal est dès l'origine. Et Baudelaire n'idéalise pas l'enfance, mais il fait de l'enfant un être sensible qui boit véritablement la présence du monde. C'est toujours des yeux ouverts, écarquillés, ceux de l'enfance, et ils se nourrissent du vin des sensations. Et dans l'extase du haschich, enfin, cette confiture verte comme... ces pots de confiture qu'on interdit aux enfants d'ouvrir. Enfin bon. Cette confiture verte donne accès, nous restitue cette sensibilité exacerbée, hein, qui transforme le monde en un théâtre de séraphins, comme il dit, enfin, en une fantasmagorie merveilleuse et qui nous rend attentifs. Le motif musical est très important dans ces scènes, qui nous rend attentifs à la musique des correspondances, à la symphonie des choses.
Et puis la confiture est verte, le paradis des amours enfantines, oui, aussi. Or le vert, chez Baudelaire, c'est la couleur de la monotonie, c'est aussi l'harmonie retrouvée du bleu de la mer et du jaune du soleil, dans Parfum exotique, par exemple. Le vert est une couleur qui donne à voir, qui, quand elle est absente, se manifeste sous le mélange du regard. Au fond, quand le poète, dans Parfum exotique, qui voit se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone, voit vert, c'est le rayon vert, il voit vert alors qu'il n'y a pas de vert, hein, Jacques Dariula.
Oui. On parle presque de couleurs de phare en ce moment, hein. Vert, jaune, bleu. On
est en train. Phare, c'est un poème des Fleurs du Mal.
On est en train de farder, en fait. Ou plutôt, le monde véritable est un monde fardé. Non pas que le maquillage soit un masque posé sur le monde, mais le monde véritable est un monde qui atteint une sorte d'incandescence de la couleur. On voit bien comment Rimbaud est attend, pour ainsi dire. Et là, comme en attente, dans la poétique de Baudelaire, un monde incandescent, vert, jaune, bleu, dites-vous. Le vert de la confiture du hachis, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais enfin, c'est un vert très forcé, très dense. Et par conséquent, oui, on pourrait dire un vert artificiel, parce qu'on pourrait croire que le vert, c'est la couleur de la nature. Mais justement, la véritable nature, c'est de ne pas être naturel, c'est d'apparaître comme un rêve du désir. Et c'est cela que le haschich nous révèle. Donc les couleurs se foncent, sombres, ou au contraire deviennent incandescentes, elles brûlent, elles palpitent, comme Baudelaire le voyait, ces tableaux ont mal vieilli, sur la peinture de Delacroix. Et à ce moment-là se révèle ce maquillage, hein, qui est le signe que le monde advient dans toute sa plénitude.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leur...
Grand merci Jacques Dariula d'être venu nous voir, et revenez bientôt, on reparlera de tout cela, de Baudelaire, de Proust et d'éternité. On verra bien, pour l'heure, c'est sur quelques mesures de Léo Ferré que cette émission s'achève.
Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Allez, les paradis d'artifice, c'est fini pour aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On passe de Jacques Dariula à François-Georges Mogarlone. François-Georges Mogarlone.
Mogarlone, exactement. On passe de la confiture verte à la déconfiture romanesque et on reste dans les effets hallucinogènes pour parler d'un roman hybride, déroutant et qui n'est fidèle qu'à lui-même, La physiologie des fantômes. C'est le sujet du journal des Nouveaux Chemins aujourd'hui. Bonjour Mogarlone.
Bonjour.
Alors, merci. Il est difficile de présenter un livre qui est constitué de fausses routes, de fausses pistes, de déroutes, et où les questions à la fois de nuages, de femmes, de politique, de références plus ou moins implicites ou explicites, et où le récit change de sujet et de lieu à chaque détour de phrase. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un livre qui ne se résume pas ? Tant la trame narrative n'est finalement pas ce qui importe, mais plutôt les réflexions qui sont distillées tout au long, au fil du récit.
Il y a un fil conducteur, mais j'ai pris un malin plaisir à le casser pour parfois aussi le renouer. Les épisodes s'enchaînent, mais d'une manière un peu paresseuse. C'est un roman paresseux. De toute façon, déjà, le titre indique qu'on est dans la fantaisie.
La physiologie des fantômes,
ben
je
oui,
rappelle.
Et si vous voulez, c'est un peu comme un archipel dont les îles se rejoignent sous la mer. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse me donner le prix de la continuité. Ce qu'il y a une constante, quand même, je dirais, celle du pastiche. Je pense que c'est un jeu littéraire. Et il y a beaucoup de passages qui sont démarqués de textes plus ou moins connus.
Oui, ça c'est assez impressionnant. Quasiment à chaque paragraphe ou à chaque page, on repère, si on lit de manière attentive et serrée près du texte, on repère des références à Proust, à Woody Allen aussi, à Simone de Beauvoir, à Sartre. Vous jonglez avec les références en permanence et parfois de manière très explicite et parfois il faut vraiment savoir à quoi vous faites allusion pour comprendre.
Vous parlez de Simone de Beauvoir, ça je ne sais plus, et de Sartre.
Vous parlez de Mère Noire de Beauvartre.
Voilà, c'est ça. C'était un texte de Boris Vian, très amusant, sur les temps modernes de l'origine. Et où, dans cette sorte de scénette, Boris Vian avait imaginé un personnage qui s'appelait Mère Noire de Beauvartre, c'est-à-dire donc une synthèse de Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir et Sartre.
Et il y a une référence aussi qui est assez intéressante et qui est assez inattendue, c'est celle, je disais, à Woody Allen, puisque, enfin, je l'ai entendu comme ça.
Elle est exceptionnelle, oui.
Vous écrivez...
C'est à la fois Woody Allen et Madame Verdurin.
C'est-à-dire Madame Duringard, dont on repère assez rapidement qu'elle est en fait Madame Verdurin elle-même.
Voilà, les Verdurin sont devenus les Duringard.
Qui aime la philosophie, mais dont l'écoute d'un discours philosophique lui donne la migraine. Hein.
Voilà.
Et donc vous écrivez à un moment, aussi avait-il accepté volontiers que Madame Duringard lui interdit de jouer au piano la chevauchée des Walkyries, cette musique lui faisant trop d'impression et craindre pour la Pologne.
Oui, et alors en fait, là, la plaisanterie, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Wagner, et qui en fait s'exprime comme le Nietzsche de la fin sur Wagner, et qu'il se méfie de tout ce qui est... Il explique qu'il faut se méfier de tout ce qui est colossal, grandiloquent, et qu'il faut préférer la lumière méditerranéenne, comme Nietzsche le disait à propos de la Carmen de Bizet. Le personnage de Wagner est... une sorte de caricature. D'autant plus que, à un moment, alors, Wagner se trouve, mais d'une manière quand même déplacée, substitué à M. de Charlus.
Et alors, si on peut trouver un fil conducteur en dehors de l'utilisation du pastiche dans votre livre, c'est le personnage. Ce livre représente les aventures de Le Véritable.
Voilà, alors là, ce personnage qui est spécialement fictif, mais que j'appelle le véritable. Finalement, on peut dire que c'est la suite de ses aventures amoureuses. Ce n'est quand même pas un Casanova.
Et alors, comment comprendre l'avertissement de ce livre? Puisque le roman est précédé d'un avertissement où vous écrivez que vous vous trouvez à Laon, en bas de la cathédrale, et que vous lisez ce chiffre se graver dans la pierre à quelques mètres du sol. C'est Meinai. Et vous dites que c'est sur ce mot qu'on a fait ce livre.
Eh bien, ça, c'est le démarquage du
c'est
début.
C'est Meinai, c'est-à-dire faire signe. Hein.
Le démarquage du début de Notre-Dame de Paris, où Victor Hugo dit j'ai construit mon roman à partir du mot Ananke, lu par hasard sur la cathédrale. Mais Victor Hugo, lui, quand même, n'a pas l'idée grotesque d'escalader la tour de la cathédrale avec une échelle de corde.
Mais alors comment comprendre la présence de cet avertissement? Quel impact a-t-il sur le roman qui suit?
C'est un écho de Notre-Dame de Paris, et ça veut dire aussi, et ce qui n'est pas entièrement faux, tout cela n'est pas pur non-sens, il y a du sens.
Alors quel est-il ce sens?
Justement, il est insaisissable, il est fuyant, il est évanescent. C'est comme ça le sens, en fait, sauf en mathématiques.
À vous lire et à vous entendre, moi, j'ai beaucoup pensé à Boris Vian. Est-ce que vous acceptez cette filiation?
On en parlait à l'instant avec Merloir de Beauvartre.
Merci beaucoup, Mogarlone. Je rappelle le titre de votre essai, c'est « La physiologie des fantômes » et on trouve ça chez Christian Bourgois, éditeur.
Vous vouliez nous parler également de la Revue des Deux Mondes.
Bah oui, la Revue des Deux Mondes du mois de septembre 2010 qui comporte deux grands dossiers qui sont passionnants tous les deux. Alors le premier a pour thème « Requiem pour le catholicisme » et l'on y trouve une vingtaine d'articles, c'est très complet, signés par Philippe Solers, Jean-Luc Nancy ou encore Donatien Gros. Et tous les contributeurs interrogent les paradoxes d'une institution en perte de vitesse apparente mais dont les richesses théologiques continuent d'être pertinentes. Et on a là un dossier très dense, très riche, qui nous conduit à nous demander pourquoi, alors que le catholicisme a été l'une des matrices de l'Europe artistique et intellectuelle, elle ne l'est plus aujourd'hui. Et le deuxième dossier traite d'un tout autre sujet et prend la forme d'une enquête sur la fameuse photographie de Rimbaud, qui a défrayé la chronique au printemps dernier. Donc pour mémoire, le 15 avril 2010, Alban Cosset, Jacques Dès et Jean-Jacques Lefrère révèlent l'existence d'un cliché où l'on voit Arthur Rimbaud à l'âge adulte. Et à partir de cette photo, les trois chercheurs ont apporté de nombreuses indications factuelles, en particulier des données biographiques jusqu'à présent inconnues des études Rimbaud. Donc je laisse lire par vous-même pour découvrir les découvertes auxquelles ces recherches ont donné lieu. On trouve ça donc dans la Revue des Deux Mondes du mois de septembre 2010 et c'est en vente en ce moment en librairie.
De Baudelaire à Beauvoir, enfin ce qu'il en reste chez François Georges, en passant par Rousseau, les Duringards et les Wagner d'opérette, c'était les deux mondes d'aujourd'hui. On se retrouve sur Internet quand vous voulez, à toute heure du jour et de la nuit, pour l'écoute en ligne des émissions du mois, le téléchargement des émissions de la semaine et également une bibliographie. Je signale aussi, puisqu'il y aura un renvoi à ce site sur le nôtre, l'existence donc de www.jdariula.net, tous les cours de Jacques Dariula désormais en ligne. C'est la suite et la fin demain déjà de cette série sur les écrivains et la drogue, cette semaine en quatre temps malheureusement, du haschich à la mescaline, de Baudelaire à Michaud, ce sera le dernier saut de la semaine. À demain donc, de 10h à 11h, comme tous les jours. Pour l'heure, il est 10h59 sur France Culture et dans un instant, question d'époque.